Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans Maghreb Express. Place aujourd'hui au deuxième volet de notre émission consacrée aux musiques maghrébines. Après avoir retracé en quelques chansons emblématiques les luttes anticoloniales et postcoloniales au Maghreb, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les musiques de l'exil et de l'immigration, car leur développement musical en France est indissociable de l'histoire du Maghreb, avec une spécificité, elle s'adresse d'abord et avant tout à un public immigré. Nous allons voir comment la musique sert l'émancipation des immigrés, de leurs enfants, comment elle sert des batailles cruciales pour les droits des travailleurs contre les discriminations. Pour en parler et retracer cette histoire passionnante mais encore trop méconnue, j'ai réinvité nos deux passeuses de mémoire musicale, deux historiennes, Naïma Yahi et Hajar Ben Boubekr. Naïma Yahi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des musiques maghrébines. Vous avez mené un doctorat sur l'histoire culturelle des artistes algériens en France entre 1962 et 1987. À vos côtés, Hajar Ben Boubekr, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également spécialiste des musiques maghrébines, vous êtes une chercheuse indépendante, vous êtes la conceptrice et l'animatrice d'un podcast remarqué et remarquable, Vintage Arabe, sur les musiques arabes. Et vous avez récemment réalisé pour France Culture un documentaire radio passionnant consacré à la figure de Taos Amrouche, cette artiste singulière, française et algérienne, chrétienne et kabyle, romancière et chanteuse entre l'Algérie et la France. Je vous propose de commencer par un tic-tac, le tic-tac d'une figure de la chanson maghrébine. On l'écoute. Dès les années 30, Mohamed El Kamal chante la rudesse du climat de France, la précarité sociale de l'immigré. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est un précurseur de cette musique de l'immigration qui compte l'exil ?
En tout cas, c'est l'un des premiers chanteurs à émerger, à enregistrer en France. Avant, donc du coup, les années 60 et 70, qui sont peut-être plus connues du grand public comme étant l'âge d'or de la chanson maghrébine de l'exil, ou en tout cas l'âge d'or de la chanson maghrébine en France. Mohamed El Kamal, il est l'un des premiers, il est entouré aussi de ces personnes qui vont venir du Maghreb pour enregistrer à Paris et s'y produire. On peut compter à ses côtés des personnes très importantes comme Mahedin Bastarji, un grand chanteur, mais aussi homme de théâtre algérien. Et Mohamed El Kamal est aussi un homme du théâtre comique algérien. Et il côtoie ce cercle de chanteurs de l'immigration, ses premiers, où on peut compter des personnes comme Mohamed Jamoussid, qui est tunisien, Hassan Slaoui, qui est marocain, qui se produisent notamment dans des cabarets parisiens. On peut penser d'ailleurs à un quartier en particulier, qui est le quartier de Saint-Severin, qui va être un quartier de la musique maghrébine, même si on l'oublie aujourd'hui parce qu'on ne trouve plus de traces de cette histoire.
Et ce quartier, il se situe où ?
À Saint-Michel, sur les quais.
Et
donc dans un quartier à Paris, oui. Donc dans un quartier très chic aujourd'hui, qui l'était beaucoup moins à l'époque, qui était un quartier d'immigration, notamment parce qu'il y avait plusieurs hôtels pour les travailleurs. Et donc, des personnalités vont ouvrir des cabarets. Notamment, beaucoup d'Algériens vont faire cette démarche d'ouvrir des lieux. Et Mohamed El Kamal fait partie des gens qui vont s'y produire et produire une musique à l'adresse de ces personnes vivant en France. Et donc, ils vont aussi par là même, moderniser la musique maghrébine et je pense même, on peut dire, créer la première forme de variété maghrébine, puisqu'il y aura à la fois évidemment un héritage musical propre au Maghreb, mais il y aura aussi d'autres influences du Proche-Orient ou même de la musique, notamment on peut penser beaucoup de tango à l'époque qui va être utilisé, qui va être repris.
Alors on avait vu dans le précédent volet que les femmes étaient au premier plan, que ce soit dans les luttes anticoloniales ou postcoloniales, même quand celles-ci passaient par le chant, la musique. Quel a été leur rôle ici, sachant que l'immigration est d'abord dans sa temporalité masculine ?
elles vont exister dans l'imaginaire des chanteurs de cette époque-là. Hajar parlait de Mohamed El Kamal qui chantait l'amour, ou le cœur tourmenté par l'amour, sur des rythmes de jazz et de rumba. Elles vont exister dans les chansons de Zerouka Allawa, on en parlait hors antenne, qui vont être contrariées par ses épouses qui leur demandent de rentrer au pays. C'est au tournant des années 50 qu'elles viennent s'installer en France métropolitaine et qu'elles vont participer à des enregistrements radio, puisqu'il y avait des émissions en langue arabe et berbère sur l'antenne de l'ORTF. Et c'est les chorales de femmes kabyles de Radio Alger qui vont les premières se produire en France.
Elles sont donc les pionnières. Après avoir été sujets, elles deviennent des artistes de premier plan.
Oui, je pense à Fadela Dzeria, qui va divorcer très jeune et qui va venir chanter dans les bars immigrés dans les années 30 et 40. Ou Ourida, Aïd Ferida, qui vont proposer les premiers duos avec les chanteurs de l'exil et les danseuses de cabaret, comme Baya Farah, qui va proposer un duo avec Slimane Azem.
À mesure que se structure et se développe en France l'industrie du disque et du spectacle maghrébin, se pose la question de la diffusion. Quels sont les lieux qui vont jouer un rôle essentiel ?
Alors oui, il y a les cabarets, il y en a plusieurs très célèbres dans la mémoire maghrébine de l'immigration. On peut penser au El Jazair, l'Algérie, qui est un des premiers cabarets qui s'ouvre et qui va recevoir les plus grandes stars, et pas seulement d'ailleurs des stars maghrébines, il va y avoir aussi beaucoup de stars du Proche-Orient qui vont venir s'y produire. Il y aura le Tam Tam, le Tunisie-Algérie-Maroc, ouvert par le père de Warda Al-Jazairi, la grande chanteuse algérienne, donc Mohamed Ftouki, qui ouvre ce cabaret, qui voulait d'ailleurs appeler le Grand Maghreb, mais on va lui refuser ce nom parce que trop connoté anticolonial ou indépendantiste. Il va donc ouvrir ce lieu où il va recevoir de nombreuses stars. Donc on peut compter des grandes stars de la chanson maghrébine, mais aussi, par exemple, quelqu'un comme Farid El Atrech, grand chanteur syrien qui chante, enfin, qui fait carrière en Égypte, ou d'autres noms comme Mohamed Abdel Wahab, par exemple, qui vont s'y produire à l'époque où ils ne sont pas connus d'ailleurs du public français. C'est vraiment un public principalement immigré qui s'y rend, et aussi des connaisseurs de la musique dite orientale. On peut penser à des gens comme Charles Aznavour qui, par exemple, racontait dans une interview qu'il avait déjà vu chanter Warda petite dans le cabaret de son père. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à l'époque, n'est pas connu du grand public. Et après, il y a la diffusion, évidemment, sur enregistrement sonore, 78 tours d'abord, puis les vinyles.
Et il y a le rôle des scopitones. Est-ce que vous pouvez nous parler des scopitones, Naïma?
Oui, les scopitones, j'apporterai un tout petit bémol sur les cabarets. C'était quand même clientèle huppé, parce que l'immigré, le travailleur immigré, n'avait pas les moyens de glisser le petit billet de 500 francs dans le décolleté de la danseuse orientale. Donc on avait, on va dire, la carte postale orientale avec des décors très kitsch, en stuc, un peu comme un resto à couscous, si vous voulez, et des vedettes comme Belmondo, Delon, ou des politiques comme François Mitterrand fréquentent ces nuits orientales. Par contre, les travailleurs immigrés, eux, ce sont les cafés algériens. Les Algériens gardent le privilège, après 62, de la licence du débit de boisson, la licence 4. Et ces bars algériens, dont on a des réminiscences à Paris aujourd'hui, sont ces centres sociaux, ce lieu où on va à la recherche d'un écrivain public, et aussi le lieu où on va écouter de la musique pour pleurer et boire ou jouer au domino. Et c'est là aussi où se jouent ces disques et les fameux scopitones. Les scopitones, ce sont ces clips en couleur qui ont fait connaître les yéyés avec Johnny, Sylvie et autres Claude François. Ces clips, les Français les ont vus, hein, des clips en couleur qui mettent en scène ses chansons, ses premiers, ce premier MTV, si j'ose dire. Et ces machines vont se recycler dans les bars algériens à l'initiative d'un certain Dadouche qui va être ouvrier dans cette entreprise de Scopitone et va leur dire, mais chez nous, les Algériens, nous aussi, on a des bars. Hein, venez faire des clips avec nos chanteurs. Et donc, ces clips, ça va donner plus de 300 clips. Comme l'a rappelé Hajar, un certain nombre d'artistes du Moyen et du Proche-Orient vont en enregistrer. Voire, on va mettre des extraits de films, ce qu'on appelle les films égyptiens, Abdelwahab, Abdelhalim, etc., dans ces machines. Et ces chanteurs de l'exil, très nombreux, très masculins, parce que, comme le disait Rachida, c'est le pays de la langue paternelle. C'est par les hommes que les familles viennent s'installer en exil. Et c'est les hommes qui vont chanter les douleurs de cet exil. Même si on l'a rappelé tout à l'heure, les femmes vont également participer de cette chanson au féminin à partir des années 50-60. Et ça va être assez presque équilibré dans les années 70 avec ces chanteuses qui vont enregistrer des scopitones comme Sheikha Remiti, Noura, Sherifa ou Hanifa. حبيبي يولي هاي نطعم وندير سبعة وعدات دير القلّة لولك صبة وخياتي ونزيد عرسي شيرات لو كان حبيبي يولي هاي نطعم وندير سبعة وعدات دير القلّة لولك صبة وخياتي ونزيد عرسي شيرات. Vous disiez l'influence du Moyen-Orient se vérifie ici, l'influence de l'Égypte, du cinéma égyptien dans le Scopitone. Quelle a été justement cette influence des musiques du Moyen-Orient sur les musiques maghrébines?
Alors, il faut savoir que la diffusion des films égyptiens date d'assez longtemps, en fait, de l'émergence du cinéma égyptien dans les pays du Maghreb. On sait par exemple que le film We Dead de Mkalfoum, où joue Mkalfoum le rôle principal, va être un très très grand succès à Alger et à Tunis et aussi à Casablanca. Il va même presque permettre la sortie des femmes au cinéma. C'est le premier film où on note que les femmes s'y rendent massivement. Et donc c'est des gens qui connaissent ces comédies musicales, parce que c'est vraiment les comédies musicales égyptiennes qui intéressent, c'est pas tant le cinéma socialiste des années 70-60 qui émerge par la suite. Et donc, il va y avoir une vraie diffusion à Paris de ce cinéma-là. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des salles qui vont presque se spécialiser. On peut penser au Luxor, dans le quartier de Barbès, à Paris, qui va en fait connaître une crise financière et va se dire, bah, en fait, on a beaucoup d'immigrés autour de nous. Si on proposait des films où ils pourraient venir en baissant le prix de la place de cinéma pour leur permettre d'y accéder. Et donc, ils vont diffuser assez massivement des films égyptiens, ces comédies musicales, et des films indiens. Et donc, c'est intéressant parce que ça va permettre, en fait, ça fait partie du circuit de diffusion. Les gens vont au cinéma, regardent le film, parfois ils comprennent, parfois ils ne comprennent pas. Il y a souvent de l'interaction dans la salle, quelqu'un qui va traduire pour ceux qui ne comprennent pas. Et puis, les gens vont sortir et acheter le vinyle avec la chanson du film ou le chanteur du film, puisque le quartier de Barbès devient très rapidement un lieu où on peut se procurer cette musique. Et c'est grâce aussi, donc justement, grâce au cinéma, au Scopitone et à la radio que ces commerces-là émergent et se multiplient, puisque je pense qu'on arrive presque à une quinzaine de boutiques implantées juste dans le quartier de Barbès, avec des spécialisations entre la musique kabyle, la musique marocaine. On peut citer des Cléopâtre, La Voix de la Jeunesse, il y a Disco Musique, et ils vont perdurer assez longtemps. Je pense que les dernières boutiques ferment réellement à la fin des années 90, au moment où le disque ne se vend plus et où les gens écoutent par Internet.
Qu'est-ce qu'elle a représenté, Oum Kalsoum? C'était la voix de l'unité arabe pour les immigrés en France?
Oui, je pense que comme dans le monde arabe en général, son talent et sa voix ont fait chavirer les cœurs de ces travailleurs immigrés qui vont sortir presque, certains diront, de terre à l'occasion de ces trois soirs à l'Olympia en 1967, où pour la première fois, ils vont voir ces travailleurs moustachus et encravatés faire la queue devant l'Olympia pour aller au spectacle et parfois sacrifier quelques économies pour voir cette quatrième pyramide d'Égypte, comme on l'a surnommée. Et je pense que cette étonnement des médias, parce qu'on peut revoir les archives de la télévision française, cet étonnement que ces forçats du travail, du labeur, ces invisibles des Trente Glorieuses puissent avoir des loisirs et qui plus est être groupies d'une chanteuse, d'une femme non voilée, parce qu'on est quand même dans un imaginaire de ce travailleur immigré, on ne les voit pas aduler une chanteuse libre et grande voix du panarabisme de l'époque. Je pense qu'elle incarne déjà ça, cette fierté d'appartenir à cette ère culturelle arabe. À côté de cela, l'immigration maghrébine est particulièrement algérienne et majoritairement kabyle et berbère. Et on a des grandes voix de cet exil amazigh qui vont se structurer et j'allais dire être omniprésents dans ce répertoire. Et j'irai pour compléter le propos d'Adjer tout à l'heure. Le premier disquaire de musique, on disait orientale, boulevard de la Chapelle à Paris, et aussi le dernier, parce qu'il est toujours debout, même si on peut y acheter quelques bibelots de touristes parisiens, on peut toujours y trouver de la musique de l'exil, des vieux CD aujourd'hui, on dit ce ne sont plus des cassettes ou des 45 tours, mais cette boutique de Madame Sauvia l'Auvergnate est toujours tenue aujourd'hui par ses neveux, et elle a survécu à des incendies, à la crise économique, à énormément de choses, et c'est un lieu de mémoire qui, en tout cas, existe toujours. J'invite les téléspectateurs à aller voir cette boutique Sauvia, les Algériens disent Sauviat, boulevard de la Chapelle.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, à la sortie du Sauviat à Barbès. Sauviat,
à la sortie du métro Barbès. Et je terminerai simplement sur cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est un répertoire qui est plurilingue. Il est composé des langues berbères dans leur variété, hein, Tachelhit, Kabyle, etc. Arabe aussi, arabe d'Alija, c'est-à-dire les dialectes du Maghreb et l'arabe littéraire. Et il est aussi francophone. Et je pense que cette pluralité est à l'instar de cette histoire de l'immigration. Parce qu'on l'a pas trop dit, mais cette musique va éclore avec une installation massive de l'immigration dans l'entre-deux-guerres, du fait de la Première Guerre mondiale, avec beaucoup de soldats qui ne vont pas revenir, qui ne vont pas rentrer dans les pays d'origine, du fait de la libre circulation des Algériens qui ont un statut particulier, puisque l'Algérie est française, et du fait également de leur installation, de leur sédentarité dans les bassins d'emploi, où ces lieux interlopes, disait-on à l'époque, des cafés immigrés, qu'on regardait d'un œil obscur, surtout pendant la guerre d'Algérie, abritaient des moments de fête, des moments de musique, et où ces chanteurs de l'exil se produisaient, ils se produisaient pas dans les cabarets. Les cabarets, il y avait des orchestres, des danseuses, quelques chanteurs comme Mustapha Anwar, des gens comme ça, les vedettes du Moyen et du Proche-Orient. Mais les chanteurs immigrés qui chantent, on va dire, qui chroniquent l'exil, ont tous eu des cafés déjà, à titre personnel. Ils ont tous géré des cafés et ils ont tous chanté dans ces cafés. On mettait le soir une petite ardoise, on annonçait, écrit en arabe ou en français, le concert du soir. Et les travailleurs, le soir, allaient vivre ces moments de musique live pouvaient passer de café en café dans la soirée au gré des artistes. Et c'est cette économie-là de production de disques, de concerts live et aussi d'exportation de musique, parce que ces artistes étaient des vedettes dans les pays d'origine. Je pense à un Dahman al-Harrachi qui se produisait exclusivement en France. Ces chansons comme Yaraïa ont été écrites, enregistrées et diffusées depuis la France, mais ce sont des chansons du panthéon de la musique maghrébine.
Yaraïa, qui est aujourd'hui une des chansons certainement les plus traduites au monde, qui a été reprise par Rachita. On connaît ce morceau célèbre, le départ. Naïma nous rappelait la stupeur des médias français lorsque Oum Kalsoum est venue se produire à Paris à l'Olympia et la stupeur devant cette queue d'ouvriers, de forçats des usines françaises qui étaient là pour reconstruire la France, on l'oublie mais... et on doit le redire, les ouvriers n'étaient pas des machines-outils dépourvues d'émotions. Comment la musique a servi les luttes de l'immigration? Elle a servi des batailles cruciales contre les discriminations ou pour les droits des travailleurs dans les usines, comme par exemple l'accès à leur culture d'origine. On va s'attarder sur la décennie des années 70, donc on est post-indépendance des pays du Maghreb, parce qu'elle marque cette décennie, l'avènement de ces luttes autour de sujets majeurs comme la carte de résidence ou encore contre le racisme. La première particularité, vous l'avez dit, beaucoup de ces ouvriers sont des artistes. On pense au légendaire Slimane Azem. De quelle manière abordaient-ils leurs conditions ouvrières dans leurs chansons?
Alors ces artistes chanteurs, comme Chef Red Dam qui travaillait le jour et apprenait la musique la nuit, c'est presque par nécessité de survie qu'il fallait chroniquer leur quotidien. Et donc si on prend Amour Amour de Slimane Azem qui s'adresse au poète Simohand pour lui raconter l'exil sans retour qui est le sien et qui est un leurre où on croit qu'on rentrera et puis un an... 2 ans passent et 10 ans se sont passés et on n'est toujours pas rentré. C'est cet emprisonnement dans l'exil qui est chroniqué par les artistes. D'Ahmed, lui, met en garde celui qui pense que l'exil, c'est un peu la ruée vers l'or. Il lui dit, comme d'autres dans la chanson « Yaraïa », comme d'autres avant toi, tu partiras et tu reviendras. Cet échec inexorable de l'exil, cette mise en garde qui va traverser les fables de D'Ahmed ou Slimane Azem, on va en avoir un autre son de cloche quand ces femmes vont les retrouver, elles qui se plaignaient de l'absence de leur mari quand elles étaient au pays, vont souffrir de l'arrachement à la terre natale et le manque des leurs et le manque presque charnel avec ceux qu'on aime qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. On est vraiment dans le voyage du retour. Le mythe du retour se construit dans les années 70. Le dernier aspect, et Adjer et moi on y tient énormément, c'est ces messieurs Mohamed Mezouni et Salah Saadawi qui, eux, vont chroniquer le racisme dans le monde du travail, comme le Scopitone et chanson qui s'appelle Clichy, qui raconte la vie dans les chantiers et le racisme. Et Salah Saadawi qui parle de ce racisme en français et qui appelle ses corlégionnaires au déménagement, à rentrer au pays.
On va l'écouter.
On vient d'entendre Mazouni et je pense que pour recontextualiser le moment où Mazouni produit cette chanson, 74, et donc ces clichés, il s'adresse à sa mère, et c'est souvent, je pense, un trope de s'adresser à la mère, où il explique les conditions, la difficulté à trouver du travail dans une France de la fin des Trente Glorieuses, et d'après le choc pétrolier de 73, après la nationalisation du pétrole de Algérie en 71, et la restriction sur l'entrée sur le territoire français pour les travailleurs immigrés, qui va vraiment compliquer la vie de ces ouvriers, dont beaucoup travaillent de manière non déclarée. Il s'en sert vraiment dans un contexte particulier où on connaît un chômage accru. Et Mazouni, ça va être quelque chose qui va vraiment reprendre dans ses chansons, parce qu'il va parler de la question du chômage de manière assez récurrente, mais aussi de la question du racisme ordinaire, comme on dit. Par exemple, il y a une chanson où il va avoir une travailleuse du sexe et qu'elle lui refuse parce que elle le refuse parce qu'il est arabe. Et elle lui dit qu'elle ne prend pas les Arabes. Donc ça veut dire que même quand on paye, on ne veut pas de nous. Et pour recontextualiser cette époque, c'est une époque où il va y avoir... on se situe à la guerre d'Algérie est passée, mai 68 est passé. Pendant mai 68, certains se sont interrogés sur l'absence des immigrés dans les luttes. Or, ce n'était pas le cas. Tous les immigrés ne se sont pas mobilisés pendant mai 68, mais il y a eu quand même des mobilisations qui vont vraiment se concrétiser à partir du début des années 70, autour évidemment de plusieurs questions. La question du racisme à proprement parler, et notamment des crimes sécuritaires et des crimes racistes.
Comment cela se traduit justement, cette question du racisme? Comment on le chronique dans les chansons?
Dans les chansons, c'est évoqué, et ce qui est intéressant, moi je pense, dans les années 70, c'est qu'il va y avoir aussi l'utilisation de la musique par des personnes qui militent sur ces questions spécifiques. On peut penser au mouvement des travailleurs arabes, par exemple, qui va comprendre en fait, qui eux-mêmes s'intéressent à la musique, et ils vont comprendre que c'est un moteur, ça peut être un vecteur pour en tout cas éveiller l'intérêt des travailleurs immigrés. Donc ils proposent des cassettes avec des chansons et du contenu politique.
Alors l'UMTA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mouvement des travailleurs arabes, c'est le premier mouvement massif d'immigrés en France qui s'organise, et à partir de 1972, dans mon souvenir, hein, ils subiront une répression féroce de la part du pouvoir et de ses officines. Beaucoup de ses leaders seront même expulsés. On se rend compte que finalement, il n'y a pas que le nationalisme, l'amour, la nostalgie du pays qui habite les paroles des chansons. Vous avez tout à l'heure évoqué donc les cassettes. Est-ce que c'est de ici Radio Asifa dont vous parlez?
Ici Radio Asifa. Actualité, musique, théâtre.
Le Qaïd, il veut me voir.
Pourquoi? Je fais pas de politique. Non, 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 il m'a dit cette fois-ci, c'est pas pour t'amener en prison.
يا فلسطين يا جرح الناس ويا مسبب أوجاع الراس يا فلسطين يا جرح الناس ويا مسبب أوجاع الراس بتضل تسحق الحراس وهموم القلب ودمع العين بتضل تسحق الحراس وهموم القلب ودمع العين.
Le chanteur égyptien Sheikh Imam, qui interprète les poèmes de Ahmed Fouad Negm. Il passe plus de temps en prison qu'en liberté. Un disque paraîtra prochainement au Chant du Monde. Sheikh Imam sera bientôt en France.
Il n'y a pas que ici Radio Asifa. Je pense que c'est peut-être pas une décennie qu'on connaît bien, donc je pense qu'il y a encore des choses à creuser sur cette époque, sur ces initiatives de militants. Et donc ici Radio Asifa, qui va être produite seulement trois émissions, par des militants du mouvement des travailleurs arabes, Mortar Bachiri, qui est marocain, et Hamza Bouziri, qui est tunisien. Et ils font partie un peu de l'aile culturelle du mouvement des travailleurs arabes, ceux qui initient l'utilisation de la culture pour réveiller les consciences. Il faut savoir que le mouvement des travailleurs arabes s'est concrétisé autour de luttes comme la carte de résidence, mais aussi les foyers, la lutte des foyers Sonacotra, à une époque où les travailleurs immigrés protestent contre le prix des loyers en foyer Sonacotra, mais aussi contre le règlement militaire imposé aux travailleurs. Puisque c'est un règlement militaire, dans le sens presque pur du terme, c'est-à-dire avec des conditions d'entrée et de sortie. Et souvent, les gardiens de ces foyers étaient d'anciens appelés en Algérie, particulièrement racistes. Et donc, il y a plusieurs luttes qui se développent dans ces années-là. Et cette cassette reprend dans son sommaire certaines de ces luttes, donc le foyer Sonacotra notamment, mais aussi par exemple des luttes internationalistes ou qui concerne la région Maghreb, puisque il parle notamment de la question du Sahara.
Dans mon souvenir, dans un de vos podcasts, vous évoquiez aussi le cas de l'usine Renault de Flins,
ou comment on s'est battu pour avoir accès à sa culture d'origine. Est-ce que vous pouvez nous raconter, alors Renault Flin, c'est dans les Yvelines, c'est l'une des usines automobiles de Renault les plus emblématiques, un des premiers sites d'assemblage qui, dans les années 70, employait plus de 20 000 ouvriers, dont une très très forte proportion d'ouvriers venus du Maghreb.
C'est vrai que c'est un sujet auquel on tient particulièrement avec Naïma, puisque pour moi ça permet aussi de remettre la classe ouvrière maghrébine au centre en fait de cette culture musicale aussi et sa diffusion, parce qu'on pense au cabaret, au café, au disque en eux-mêmes, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont œuvré pour que ces travailleurs au sein des usines puissent accéder plus facilement à ces disques-là, à ces concerts-là. Et on peut penser à quelqu'un comme Mustapha Id Bihi, qui est un travailleur marocain, qui va travailler à Renault Flin et qui va avoir la particularité de ne pas être un OS, un ouvrier. Alors les OS, c'est ouvrier spécialisé, mais en vérité, ça veut dire ouvrier sans spécialisation. Et beaucoup de travailleurs immigrés, pas que maghrébins d'ailleurs, étaient OS et ne pouvaient pas bénéficier souvent d'un parcours ascendant, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un plafond de verre qui les empêchait de monter en grade. Lui, il se trouve qu'il parlait et écrivait le français et ne s'est pas retrouvé OS. Et il va lutter au sein du comité de lutte de Renault Flin, proche des mouvements maoïstes, pour les droits de ces personnes, de ces OS, mais de l'ensemble des ouvriers, mais particulièrement des OS. Et il va accéder au comité d'entreprise pour proposer des concerts, une offre culturelle pour ces travailleurs maghrébins qui sont vraiment une proportion importante de ces usines automobiles, et pas que chez Renault Flin. On peut penser à Chausson, qui s'occupe de la production de pièces spécifiques, qui est basée à Gennevilliers, à Niers-Gennevilliers. Et c'est particulièrement des ouvriers marocains qui sont chez Chausson. On peut penser à Peugeot, où là, c'est plus des Tunisiens. Et on a même parfois une catégorisation presque par nationalité. Et Renault Flin va être une de ces grandes usines, et Mustapha va permettre en fait la diffusion de groupes comme Nassel Riwan en vinyle, à un accès libre pour ses employés, mais aussi à des concerts. C'est lui qui va ramener les grandes stars de la chanson marocaine et maghrébine, mais aussi des grandes stars comme la chanteuse libanaise Sabah, et pour les familles et des travailleurs et les travailleurs eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est des concerts dont on n'a pas la mémoire, on va dire, collective de la venue de ces grandes stars-là, puisque c'était des concerts qui étaient spécifiquement pour les ouvriers et leurs familles.
Mustapha Id Bihi était ouvrier à Lille Seguin. Mais en tant que délégué syndical du comité d'entreprise de chez Renault, il a irrigué effectivement différents sites de chez Renault. Et comme l'a rappelé Hajar, il a eu comme acte de bravoure de monter de très très belles scènes, pas que maghrébines, puisqu'il a fait venir les Touré Kounda et plein d'autres artistes qui correspondaient au goût des travailleurs immigrés, qui étaient jusqu'à 80% de la masse salariale des sites de chez Renault, et aussi Peugeot, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une loi qui change en 1972, qui permet à des étrangers d'être élus délégués syndicaux. C'est un des acquis des mobilisations et des luttes. Il y en aura d'autres tout au long de la décennie. Et Mustapha Id Bihi, qui est une de ces grandes figures, c'est un grand monsieur qui a un parcours assez extraordinaire, va devenir un grand producteur dans ce champ des musiques de l'exil, et un grand organisateur de spectacles. Et pour l'anecdote, pour compléter la biographie que propose Hajar, c'est qu'il a proposé clé en main des plateaux d'artistes pour l'émission de télévision Mosaïque, qui était une antenne ouverte aux immigrés le dimanche matin, et qui proposait de diviser la proposition artistique entre les Yougoslaves, les Turcs, les Portugais et les Maghrébins, avec beaucoup d'artistes de l'ancienne génération, mais aussi de la nouvelle, on va le voir, comme un certain groupe qui s'appelle Carte de Séjour, vont faire leur première télé en France sur cette antenne réservée à l'immigration qu'est Mosaïque. Et Mustapha va faire partie de cela. Peut-être aussi un petit clin d'œil à Saïd Bouziri, le frère de Hamza Bouziri, qui en 73, avec son épouse Fawzia, va mener une grève de la faim contre son expulsion et va recevoir à son chevet Michel Foucault, Jean-Paul Sartre et d'autres qui vont soutenir la lutte des immigrés. Saïd Bouziri, avec d'autres membres du MTA, va organiser la grève générale des travailleurs arabes en 73 par rapport à la bouffée raciste et des ratonnades dans la région de Marseille, avec plusieurs morts. Et tout au long de la décennie, vont accompagner et structurer la lutte dans les foyers, comme l'a rappelé Hadjar. Et tout ça avec une conscience de la question culturelle qui va se traduire par des poèmes, du théâtre et des concerts, notamment pendant le Festival de théâtre immigré de Puteaux, qui, à partir des années 74-75, organisé avec la CIMAD, va accueillir des jeunes artistes comme un certain Idir, Jamel Allam ou d'autres figures de la nouvelle génération de chanteurs maghrébins en France qui vont accompagner ces luttes.
Puisque tu parles du théâtre et de ces initiatives, puisqu'il y avait la cassette Ici Radio Asfa qui n'a pas duré très longtemps, ça a duré 3 épisodes et le support de la cassette était choisi parce que ça permettait la diffusion dans les cafés et dans les usines, et ils se sont inspirés de Radio Lip, de la grève des usines Lip, pour reproduire en fait ce qu'ils avaient vu chez Lip. Et c'est vrai qu'il va y avoir autour de Saïd Bouziri et de Mokhtar Bachiri vraiment un développement culturel. Et je vous citerai juste en fait la Racifa, qui est la troupe de théâtre du mouvement des travailleurs arabes, qui après va s'autonomiser quand le MTA va prendre fin, l'aventure du MTA, et va produire des pièces de théâtre autour de la condition d'ouvriers immigrés par des ouvriers immigrés. Donc c'est une vraie première à cette époque.
Alors comment, vous avez commencé à en parler, Naïma, comment le pont musical s'opère-t-il entre les générations ? Vous avez parlé de ce groupe mythique, Quart de Séjour, porté par une autre figure mythique qui a disparu il y a 2 ans, porté par une crise cardiaque, Rachida, figure du rock, mais qui a révolutionné aussi le rock et le raï et le shaabi, puisqu'il a tout mélangé. On va écouter Quart de Séjour, un titre en particulier.
Il revient à ma mémoire souvenir familier, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Comment les enfants d'immigrés ont-ils réinventé l'héritage de leurs parents, l'héritage des anciens ? On a écouté Rachida, Carte de séjour, c'est tout à la fois la lignée, mais en même temps une rupture.
C'est pas une rupture, c'est une continuité, mais qui ne le sait pas encore. Je vais éclaircir mon propos. Aussi vrai que les luttes portées par les travailleurs immigrés vont, structurer la prise de parole artistique dans les années 70, où va s'essouffler le thème de l'orba, l'exil, pour laisser place à des préoccupations du travailleur émigré dans son quotidien, d'où la fameuse carte de résidence de Slimane Azem dont on avait parlé la fois précédente.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence.
La génération qu'on dit beurre dans les années 80, elle commence déjà à apparaître au milieu, fin des années 70, à travers des troupes de théâtre, des musiciens et des nouvelles figures qui vont mélanger on va dire, c'est le début de la world music, mélanger des codes venus d'un peu partout. Un Jamel Alam qui mélange les sonorités folk à des chansons ancestrales kabyles, les Abranis qui proposent du rock kabyle, complètement psychédélique, Idir qui reprend vraiment la mémoire orale féminine de poèmes, toujours avec ce son un peu à la Maxime Le Forestier dans les années 70, vont côtoyer cette chanson de l'exil dont on a parlé. Quant au début des années 80, avec les crimes racistes qui frappaient leur père dans les années 70, on pense à Mohamed Diab et à d'autres, Younes ou d'autres victimes de crimes racistes, de travailleurs immigrés, après c'est leurs fils qui se font abattre. Entre 81 et 83, on a 43 jeunes maghrébins qui sont abattus, soit dans le cas d'un crime sécuritaire, soit dans un crime raciste. Donc cette flambée de violence va pousser cette jeunesse héritière de ces mouvements du MTA à s'organiser. Et là, je pense à Rock Against Police, qui va copier, j'allais dire, les initiatives londoniennes de Rock Against Racism, et va proposer en bas des tours du rock et des débats pour dénoncer le racisme et les violences mortifères qui frappent les jeunes arabes dans les quartiers. Cette jeunesse qu'on n'a pas voulu voir et qu'on pensait pas, en tout cas, faire souche et rester dans ce pays. D'ailleurs, on les appelle jeunes immigrés, eux qui sont nés en France pour la plupart, et c'est ce qui va être cette porte ouverte vers des expériences comme Carte de séjour, les premiers à faire du rock arabe. Il y avait aussi Rockin' Babouche, il y a Lounis Lounès de Nanterre qui chantait Kader, qui avait été assassiné à Ivry. Donc on a un rock contestataire qui dénonce les crimes racistes, et ça explose au début des années 80.
Il y a aussi les radios, en fait les radios libres qui émergent à ce moment-là, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs initiatives qui vont finalement être un peu la continuité d'un ici Radio La Racifa enregistré sur cassette. On va avoir Radio Soleil et Goutte d'Or, avec d'ailleurs des anciens du mouvement des travailleurs arabes et de ces jeunes nés en France qui se côtoient, qui travaillent ensemble. Il y a Radio Soleil Mini Montant pour les radios parisiennes. On a aussi Radio Zermatt Banlieue dans la région lyonnaise. Il y a des initiatives qui diffusent à la fois de la musique des parents, comme on disait, mais aussi cette nouvelle génération qui produit sa propre musique et qui parle de sa propre condition. Et ça s'accompagne effectivement de troupes de théâtre, mais aussi de journaux. Je pense que Naïma a à cœur Sans Frontières, notamment, qui est un des premiers journaux, en fait, qui parle des questions, des problématiques liées à l'immigration, aux conditions de vie des travailleurs immigrés, mais aussi de ces enfants nés en France qui n'ont pas toujours la nationalité.
Ah, une décennie plus tard, on a aussi ça, on écoute.
Loi de fer, loi Jox, loi Pasqua ou Debré, une seule logique.
La chasse à l'immigré, et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines.
Un État raciste ne peut que créer des lois racistes.
Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête.
Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papier et de leurs familles.
Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France.
Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays.
Qu'ils soient français ou immigrés. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique. Les lois qu'ils veulent mettre en application corroborent mon accusation. Trop de baissants barbettes qui plomberie dans le tourbillon de l'immigration. Tout pays au monde expulse ses immigrés clandestins. C'est vrai, mais la France a une autre responsabilité entre les mains. Les faits sont historiques, le peuple français a fait couler son sang pour écrire noir sur blanc les bases d'une démocratie en Occident. Que les dirigeants s'en souviennent, attends, je les illumine. Droit d'asile pour les populations victimes de la misère du globe. Combattre le racisme, le fascisme, le sexisme et toutes sortes de xénophobes. Sans papier donc sans droit, sans droit donc écrasé par les lois. La justice nous taronne d'abat quand on voit ces desiderata.
Plusieurs artistes de rap se réunissent et produisent un album 11 minutes 30 contre les lois racistes et en faveur du MIB. Le MIB, c'est le mouvement d'émigration et des banlieues, une des tentatives les plus emblématiques d'organiser politiquement l'immigration post-coloniale en France. Quel a été l'impact de cet album, de ce groupe, de cette alliance de rappeurs ?
Peut-être sur le disque, je laisserai Hajar réagir, mais je dirais que là, on a sauté une grosse décennie. Donc
on est en 1997.
Juste pour donner un petit rappel, cette jeunesse des années 80, cette jeunesse beurre, comme on dit à l'époque, son embryon, c'est le comité des jeunes qui va accueillir la marche pour l'égalité en 83. c'est des figures militantes comme Tarek Kaoutari, Farid, enfin un certain nombre de Farid Talba, qui est aussi écrivain, qui vont fonder ce mouvement qui va faire suite aux mobilisations contre les expulsions des doubles peines, parce qu'il n'y a pas que les assassinats, il y a aussi l'expulsion de jeunes maghrébins qui sont condamnés au pénal. Donc ils ont répondu présent pendant de nombreuses décennies pour accompagner les familles dans toute la France dans des affaires d'assassinats ou pour des jeunes qui étaient frappés d'expulsion et qui revenaient parce qu'ils ne connaissaient pas le fameux pays d'origine qu'ils ont quitté à l'âge de 2 ou 3 ans. Et donc ce mouvement immigration banlieue va se structurer dans toute la France et jusqu'à aujourd'hui il perdure et il va même accompagner, pour ceux qui l'ignoreraient, des initiatives comme le comité Adama qui en est aussi l'héritier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2021, ces combats pour la justice et la vérité autour de crimes racistes ou sécuritaires sont héritiers de ces mouvements immigration banlieue qui eux-mêmes sont les héritiers de leurs aînés du MTA qui se mobilisaient pour les mêmes raisons. Et comme ça a été le cas pour le MTA, les artistes vont cheminer à leur côté et là, on est dans les années 90, donc c'est le rap qui l'emporte.
C'est exactement ça, c'est une histoire de continuité. Le MIB va être très important pour la jeunesse de l'époque sensible à ces questions de crimes sécuritaires ou de double peine. Et il y a donc la proposition de Majd qui est le producteur et l'agent du groupe Assassin, qui va proposer de chanter, de rapper pour le MIB, sur une chanson qui s'appelle donc le 11-30. On va réunir les grands rappeurs de l'époque. On peut citer des très grands noms comme Akhenaton et Freeman de IAM. On peut citer les membres du ministère amer, Passy, Stomy Bugsy, ou encore on peut penser à Fab de la Secret Connection, qui vont tous se réunir pour en fait produire cette chanson qui... On est en 97 et en fait il va y avoir la promulgation des lois Debré qui va accentuer les lois Pasqua, qui datent de quelques années avant, qui va rendre extrêmement difficile l'accès à la nationalité française, et notamment remettre en question le droit du sol, qui est quand même un fondement en fait de la nationalité française et de la nation française, et contrôler encore plus durement l'entrée des étrangers sur le territoire. Donc ils se regroupent. On entend au début donc Majd et le réalisateur Jean-Pierre Richer lire un texte très inspiré des propos du MIB. Et donc, dans toute cette chanson, il y a aussi une histoire de continuité de mémoire. Donc, il y a la continuité parce qu'on fait ça pour le MIB et on fait aussi ça pour rappeler la mémoire de l'immigration. Donc, effectivement, on n'est pas dans de la musique maghrébine, mais il y a la mémoire de l'exil, il y a la mémoire coloniale fortement portée par ces rappeurs. Et il y a évidemment la mémoire des luttes autour de toute la question de la carte de résidence. Et ça a été un des morceaux emblématiques aussi parce que c'est une des seules fois dans l'histoire du rap on va réussir à réunir tous ces gens qui parfois ne s'entendent pas. Et c'est vraiment une première et qui s'inspire, il faut le dire fortement, des initiatives faites par les rappeurs afro-américains.
10 ans plus tard, en 2007, c'est une autre association. Deux frères, Moussi Hakim, membre du groupe Zebda, produisent ensemble l'album Origine contrôlée. On fait un bond dans l'appropriation de ce patrimoine culturel qui est maghrébin, mais qui est aussi très français. Hakim, qui sont plus connus pour les chansons de l'été, comme Tomber la chemise avec Zebda en 99, se tournent vers le patrimoine de la chanson algérienne de leur père, en arabe, en kabyle et en français. Cela nous dit le chemin parcouru vers la réappropriation
patrimoniale. Ils n'avaient presque pas intérêt à se tourner vers ce patrimoine-là, eux qui étaient plus associés à Toulouse et à Claude Nougaro. Et cette réconciliation avec ce qui les compose dans leur diversité nous donne un album réjouissant aux sonorités tout à fait toulousaines et rock, puisque c'est leur ancrage, mais qui fait découvrir au plus grand nombre cette chanson de l'exil, cette histoire de l'immigration. Et je pense que ce travail de rendre audible et de transmettre, c'est vraiment une œuvre de transmission, d'abord aux enfants d'immigrés, mais également au plus grand nombre, ces chansons de France, c'est comme ça qu'ils en parlent, c'est que la boucle est bouclée, puisque ces Français sont héritiers de cette immigration, c'est aussi comme ça qu'ils se présentent. Donc on est dans une question d'héritage et de partage. Somme toute, c'est un petit peu ça, la chanson de l'exil en France.
Je me rends compte, et ça sera ma dernière question, qu'on a beaucoup cité des hommes sur cette période, mais comme la précédente. Alors la précédente s'explique parce que l'immigration a d'abord été masculine dans la temporalité. Aujourd'hui, qui sont les héritières de cette histoire immensément riche? Pourquoi, comment vous expliquez que les femmes soient finalement, apparaissent absentes presque de ce mouvement de réappropriation?
Elles ne sont pas absentes, elles ont connu un certain succès déjà auprès de l'immigration et ensuite auprès du public français. Je vous rappelle que les Djourdjouras dans les années 80 avaient porte ouverte dans les plus grandes émissions de variété françaises, que de nombreux Français les connaissent.
Un jour, les hommes et les femmes, réunis comme ces montagnes, prendront la parole pour dire le feu qui les dévore. Montre-nous ton visage. Liberté.
Elles ont chanté en robe traditionnelle des standards de la chanson kabyle et ont su se raconter et raconter ce patrimoine en partage. De nombreux artistes aujourd'hui, y compris chez les filles, en sont les héritiers directs. Je pense à une artiste qui chante dans toutes ses langues. Je pense à Samira Bramia, qui est une de mes préférées, qui a pu faire ce travail avec laquelle j'ai collaboré dans une comédie musicale qui s'appelle Barbès Café, qui raconte cette chanson de l'exil au féminin. On pourrait en citer d'autres. Qui aurait en tout cas cette filiation.
Années 80, c'est pas nécessairement que des chanteuses. La troupe de théâtre de la Kaina, ce sont des femmes qui se produisent sur scène et qui portent en tout cas leur histoire en tant que femmes de l'immigration et justement aussi des grandes figures de l'histoire maghrébine féminine.
On est vraiment dans un travail qui s'est pas encore fait chez les filles, mais j'appelle nos téléspectateurs étrices à se pencher sur ces répertoires et pourquoi pas à faire ce travail qu'ont fait les garçons chez Rachida ou Moussé Hakim et d'autres, de le faire au féminin. Je pense qu'il y a un espace pour le faire. Je pense à des chanteuses comme Nawel Benkrayem qui a un très bel univers et qui aussi puise dans ces esthétiques-là.
Le rideau tombe ballant et difficilement la sombre histoire n'est pas une fiction. Souviens-toi l'Algérie, les femmes qui posaient des bombes dans les cafés, lieux virils, il paraît un...
Il y a des très très belles voix et même des artistes pas du tout d'origine maghrébine, puisqu'on a bénéficié de Cheikh Harimiti jusqu'au début des années 2000 et d'autres figures féminines du raï. Je pense que dans l'espace raï et électro, on peut trouver des filiations aujourd'hui.
Et voilà. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que la difficulté pour les femmes en général, et pas que les femmes maghrébines, à émerger en tant que femme artiste, c'est une difficulté qui est commune à la condition d'être femme, d'être assignée femme. Et je pense qu'elle n'échappe pas aussi à la difficulté d'entreprendre une carrière artistique, là où c'est plus simple pour les hommes. Et ça vaut pour tous les genres musicaux et toutes les origines, pas seulement pour les Maghrébins.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous, Hajar Ben Boubekr. Merci à vous, Naïma Yahi, pour ce panorama musical, cet éclairage qui nous montre combien l'immigration maghrébine n'est absolument pas un problème, mais bien une immense richesse de part et d'autre de la Méditerranée, que ce soit ici en France ou là-bas au Maghreb. À très bientôt sur Mediapart pour un nouveau numéro de Maghreb Express.